dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs.
Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de...
Anna Magidson.
Déjà bonjour, je m'appelle Anna Magidson, je suis une artiste franco-américaine. Je suis multi-instrumentiste, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le chant et raconter des histoires. Mes musiques, c'est mon journal intime. C'est un mélange de mes influences françaises, américaines. Et j'aime dire que c'est de la pop alternative, parce que je suis une très grande fan de la pop. Et j'adore expérimenter, pousser, bousculer un peu les codes.
Dans les oreilles de...
Rencontre ce matin avec cet artiste qui a fait ses gammes entre la France, les États-Unis et le Canada et qui est apparu sur nos ondes en 2014 en duo avec Romain Hainaut et qui est Blasé. Ils étaient hôtes et chantaient Shut Me Down. Plus tard, Anna est revenue seule, cette fois nous chantait un air qui n'a jamais quitté nos têtes, Natacha, extrait de son disque La Rivière, une douceur entêtante qui réussit le pari d'être à la fois simple et raffinée. La voici de retour avec Ménagerie de Glace, l'occasion d'explorer avec elle cette voix alternative qu'elle offre à la pop. Et pour commencer, Anna, par quel morceau souhaiteriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Nova?
Ça me fait penser à un morceau de Françoise Hardy que j'aime beaucoup, où c'est de la guitare folk américaine qui l'accompagne. Je pense qu'il s'appelle « À quoi ça sert ?». En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le mélange de la guitare folk americana avec la voix de Françoise Hardy qui est tellement iconique de la chanson française et puis ses textes qui sont à la fois hyper simples et puis très émotionnels et très drama. Et moi, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai envie de représenter. C'est un peu ces mélanges-là entre déjà ces deux cultures-là et puis ce côté un peu trop sensitive, too much.
Comme toi, j'ai un cœur qui ne peut rien promettre, à qui l'amour fait peur, mais qui t'aime peut-être. À quoi ça sert de le cacher? À quoi ça sert d'y échapper? Je n'ai rien à t'offrir que ce que mes yeux voient. Tu ne veux pas souffrir, mais qui ne souffre pas? À quoi ça sert de l'éviter? À quoi ça sert de t'en aller?
Thank you.
oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Anna Magidson.
En 1968, Françoise Hardy sort les violons et ça tombe bien, notre invitée adore ça. C'est en tout cas avec ce morceau, À quoi ça sert, que la musicienne Anna Magidson donne le ton de cette immersion dans ses oreilles. Une heure entre le Poitou et la Californie, une heure pendant lesquelles les comédies musicales côtoient le jazz manouche mais aussi le mouvement piou-piou. Rendez-vous pour commencer dans une salle de concert de Poitiers, c'est là qu'on la retrouve.
Dans les oreilles de
Anna Magidson.
The Beatles Drive My Car sur Radio Nova qui fait connaissance ce matin avec la chanteuse et multi-instrumentiste franco-américaine Anna Magidson. Un air revenu à l'évocation des premiers souvenirs.
Alors le plus fort et le plus lointain, je suis au Pince-Oreille qui est du coup un bar à Poitiers. Mes parents, ils sont tous les deux musiciens de jazz blues. Et donc on était souvent au Pince-Oreille parce que c'était le bœuf le mardi soir, je pense. Et je dois avoir 5-6 ans. Et je pense que c'est juste des fois, il y avait des babysitteuses qui nous gardaient. Du coup, on n'était pas au Pince-Oreille avec papa et maman. Mais ce soir-là, je pense que ce n'était pas le cas. Ou je ne sais pas, peut-être que c'était une sortie familiale pour voir papa et maman chanter sur scène. Et j'ai un souvenir de chanter Drive My Car des Beatles sur scène. Mais c'était après qu'ils avaient fini leur show. Donc, il était assez tard. Voilà, j'ai des brides de souvenirs de ça. Il n'y avait plus trop de public. C'était un peu, on était en train de tout ranger le matériel. Et voilà, Drive My Car des Beatles.
Et quel est le disque dont vous pourriez dire que c'est celui que vous avez le plus écouté?
Ça, c'est le plus fort et le plus présent. Après, je pense qu'avant ça, ça doit être des... Je me souviens de ma grand-mère qui me chantait des comptines. Je me souviens d'inventer des chorégraphies sur Madonna. D'écouter B.B. King, Stevie Wonder et les Beatles à la sono qu'on avait à la maison, mais j'aurais du mal à dire ce qui était le premier, quoi.
Eux, ils jouaient quoi, vos parents?
Bah, mon père, il est guitariste et ma mère est chanteuse. Ça, c'est genre leur rôle principal. Après, ils touchent à tout. Mon père, il joue quasiment tout. Enfin, ce qu'il peut mettre les mains dessus, et il essaye d'apprendre. Il joue de tout. Et ma mère, maintenant, elle se débrouille bien à la basse, à la guitare aussi. Aujourd'hui, c'est surtout du jazz manouche, parce qu'eux, ils se sont basés... Maintenant, ils sont en Californie, et là-bas, ce qu'ils font le plus, c'est du jazz manouche. Mais mon père, c'est un mec de... Enfin, déjà, il est américain, donc il a grandi avec toutes les influences jazz, soul et blues. Et lui, ce qu'il fait kiffer le plus, je pense, c'est le blues. Dans ses compos, quand il m'envoie ses morceaux, je vois que c'est vraiment American à blues. et qu'après, il allait vers le jazz manouche. Mais pour lui, je pense que c'est B.B. King. Il y a eu beaucoup de Wes Montgomery aussi, donc quand même assez jazz. Et ma mère, elle, c'était vraiment chanson française. On écoutait Serge Gainsbourg dans la voiture. Et elle me faisait repiquer les paroles de morceaux. Parce que c'était un peu avant qu'on pouvait juste regarder les paroles sur Internet. Et du coup, pour ces dates, elle me demandait de genre repiquer les paroles de certains morceaux, genre de Charles Trenet ou de Yves Montand.
Ménil Montand, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur.
C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, mariage allégément. Quand je revois ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois.
Nova. Dans les oreilles de
Anna Magidson. Dans ce bain musical environnant, quelle est la première musique dont vous pourriez dire que c'est celle que vous soyez appropriée, tombée en amour avec ? C'est-à-dire que vous êtes trop jeune pour vous acheter de la musique. Ceci étant, est-ce que vous êtes d'une génération où vous achetez encore de la musique ?
Ouais. Je m'en souviens des premiers albums qu'on a achetés, mais qu'on écoutait tous ensemble. Donc c'est vrai que moi, c'était plus LimeWire. C'était vraiment les premiers tels. Genre, ma musique à moi, c'était qui était dans mon petit MP3 lecteur, c'était des trucs qu'on avait téléchargés illégalement sur Internet, c'est vrai. Mais avant ça, la première musique que je me suis vraiment appropriée, c'était les Beatles. Ça, c'était vraiment genre c'était un peu le début de tout, genre la bible de la pop, pour moi, c'est les Beatles. Et je pense que c'est vraiment l'album rouge, le double album rouge, ça m'a juste vraiment marqué.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah,
après, l'appropriation corporelle, c'était musique de Madonna, parce que c'était la première chorégraphie que j'ai faite avec ma cousine. Et ça, c'était genre, je sais que dans mon inconscient, elle a une importance. Après, il y a aussi beaucoup de Michael Jackson dans mon enfance, où c'est vraiment... Parce que nous, on a un peu grandi en troupe de cousins, parce que tous nos parents étaient artistes, musiciens.
Ah, ok.
Du coup, on était beaucoup ensemble, et mon cousin, en fait, il imitait Michael Jackson en permanence. Je sais pas, il y avait une espèce de obsession collective avec Michael Jackson, qui pouvait chanter, danser, et qui était un performeur hors pair. Je pense que ça m'a beaucoup influencé aussi. Pour moi, là, le premier genre d'être de gens connus, Je pense que c'est pas venu avant des festivals, quand j'étais au lycée. Genre de vraies personnes, en mode... On a acheté des billets pour aller voir cette telle et telle personne. Et c'était... C'était genre Cage the Elephant, enfin des trucs assez rock que j'aimais pas spécialement. C'était plutôt des festivals, parce que moi je suis allée au lycée en Californie, et du coup c'était... Il y avait un festival en particulier où c'était MC Hammer et Cake, ce qui était quand même assez iconique. Ouais, ça m'a marqué à vie. You can't touch this. You can't touch this.
You can't touch this. Nova, dans les oreilles de...
Anna Magidson.
En fait, j'étais tellement à des concerts tout le temps avec mes parents que...
Eux, ils allaient voir quoi ? Ah non, c'est eux qui jouaient,
ouais,
mais ils partageaient la scène avec plein d'artistes.
Ouais, c'est ça, eux, ils accompagnaient vachement.
Et donc, c'est qui ces gens ?
Bah, il y avait un chanteur de jazz en particulier que mon père a accompagné et ma mère a accompagné aussi du coup à la guitare pendant des années. Il s'appelle Jack Powell, qui était une énorme influence. Et c'était rigolo parce que moi, à la base, j'étais plus du côté photo, documentariste, et du coup je prenais plein de vidéos de Jack Powell dans le restaurant avec l'aquarium de poissons, parce que mes parents ils jouaient dans des restaurants, dans des vignobles ou dans des galeries d'art, mais c'était surtout dans des bars ou des restaurants qui avaient une touch jazzy avec les chanteurs qu'ils accompagnaient, mais Jack Powell qui malheureusement est décédé il y a quelques années du Covid, il m'a appris un répertoire de jazz trop ouf, et il c'est juste une personne hyper importante dans notre famille. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that moment? Vous avez commencé à faire de la musique à quel âge ? Très jeune. Je me souviens du Minitel, où on avait des cours de solfège sur Minitel. Donc je devais avoir, 4-5 ans. Après, c'était un peu le langage commun. Donc mon frère et moi, on a grandi en jouant des instruments. Mais le moment où moi, je me suis approprié ça pour que ça devienne mon identité à moi et pas celle de ma famille, c'était à 11-12 ans quand j'ai commencé à faire de la chorale. C'était très Disney. Et en fait, moi, mon audition, j'en souviens très bien, je crois que j'avais 11 ans et j'étais vraiment genre à l'école, j'étais pas du tout cool, quoi. J'étais out. Et c'était un peu mon premier moment où j'ai compris que la musique pouvait m'aider dans ce domaine particulier. Et en fait, j'ai fait une audition pour rentrer dans la chorale où j'ai chanté un morceau du film Anastasia qui s'appelle Le Dernier Décembre, je pense. Mais je l'ai chanté en français. Et là, le directeur de la chorale et sa sœur, qui était un peu directrice à l'école aussi, c'était en mode « Oh, c'est cool, le chant en français !» Ça m'a permis de m'expatrier de ma propre famille pour un peu développer ma propre identité à travers le chant. Et c'était vraiment la chorale et la comédie musicale. Genre Singing in the Rain, parce qu'en plus c'est des standards de jazz, donc moi je les connaissais déjà, donc trop pratique. J'ai joué dans Guys and Dolls, j'ai joué dans Grease, j'ai joué dans La Belle et la Bête. J'étais obsédée par Rent.
Mais quand vous dites j'ai joué, vous avez participé à ces comédies musicales ?
Ouais, parce qu'au lycée américain, c'est complètement normal, quoi. Enfin, c'est un truc. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. En gros, on a une comédie musicale par an, qui est genre tout le... Mais c'est comme dans les films, hein, vraiment, c'est... Tous les gens qui veulent postuler, auditionner pour être dans la comédie musicale passent des auditions. Il y a un réalisateur, un directeur musical, t'as l'orchestre qui joue vraiment, et t'as des costumes. Enfin, moi, j'ai une photo de moi en costume d'assiette, parce que j'étais une assiette dans La Belle et la Bête, où je suis vraiment... Genre, ils m'ont fait une assiette en carton qui fait tout mon corps. Et c'était ça, un de mes premiers rôles, c'était assiette, Belle et la Bête. Et villageoise numéro 3. Mais c'est un vrai délire, genre tu joues ta vie, quoi. Parce que t'es au lycée et c'est...
Oui, et puis il y a l'expérience quand même de la scène.
Ah ouais, ouais, ouais. La scène et... En dehors du lycée, moi je jouais dans une compagnie de théâtre, de comédie musicale. Et là, j'ai pu jouer Wendy, la petite sirène, c'était un peu un de mes premiers rôles. Et c'est ça qui m'a appris vraiment, vraiment à être sur scène et à parler devant les gens, à danser, parce que c'était des rôles où il fallait beaucoup danser aussi. Mon éducation hors de ma famille, c'était ça, quoi.
Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?
Nova.
Dans les oreilles de
Anna Magidson. Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Surtout la partie 1. Enfin, je l'écoute encore aujourd'hui et à chaque fois je le redécouvre, quoi, parce que c'est. Stevie Wonder, pour moi, c'est un dieu intouchable. Et ça, c'est depuis super longtemps, parce que c'est un des premiers disques qu'on a à la maison.
Les oreilles de
Anna Magidson.
Sir Duke, déclaration d'amour à la musique par Stevie Wonder sur son disque Songs in the Key of Life, sorti en 1976. Une déclaration d'amour reçue à 100% par notre invitée ce matin, la musicienne et chanteuse franco-américaine Anna Magidson, qui en a fait son disque de chevet. D'autres chocs musicaux arrivent avant d'évoquer ses débuts à Montréal, puis à Paris.
We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, oh, my be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beats so bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chicken from my farm. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tunkus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Dans les oreilles de Anna Magidson.
La claque arrive en février 1996. Ce mois-là, The Fugees sort The Score, que l'on découvre par ce très sombre et néanmoins addictif Fugila. Sur ce disque, une reprise Killing Me Softly qui va faire chavirer tous les cœurs, toutes générations confondues, preuve de la puissance de la déflagration. Et Anna Magidson, notre invitée, n'y a pas échappé.
Après la première claque de ouf, et album qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est l'album des Fugees. Je l'entends chez des potes à ma tante. Et je comprends qu'en fait, que j'ai rien compris encore à la musique. Je dois avoir 10-11 ans et je passe un été en France et Killing Me Softly, ça me... Wow. Je comprends que la musique, en fait, ça, c'est encore plus ouf que je pensais, que c'est un morceau que je me chante encore aujourd'hui quand je fais des crises d'angoisse ou des trucs. Ça, c'est devenu genre un allié, quoi, ce morceau.
Ouais, un refuge.
Mmh. Ouais, ça représente aussi l'ouverture au R&B et hip-hop, parce qu'avant, j'étais vraiment plus... Enfin, bien sûr, Stevie Wonder, c'est du R&B, mais j'étais tellement plus jazz avant, et j'avais pas du tout d'ouverture vers... le rap hip-hop, et The Fugees c'est quand même plus rap hip-hop, et là c'est un peu mon horizon qui s'agrandit.
Et pour autant vous lâchez pas les instruments quand même? Non. À ce moment-là?
Non, je continue à la maison, je monte un groupe de jazz, Manouche, où c'est trois meufs, moi la guitare chant, une autre meuf guitare qui fait des solos, et une dernière qui fait de la contrebasse. Je continue à jouer du piano, mon premier morceau c'est Saturn de Stevie Wonder, je m'en souviens très bien. Et mon frère jouait de la clarinette, qu'on jouait ensemble. Le premier morceau que moi j'ai joué à la guitare et lui à la clarinette, c'était Cherokee, hein, qui est un standard de jazz. Et je commence à jouer même avec mon père dans des mariages et dans des petits restos. Enfin, c'est un peu mon premier vrai salaire, c'est de faire exactement ce que font mes parents. En fait, je finis mes études, mes parents, j'en souviens très bien, mon père est en mode « Est-ce que tu veux partir en tournée avec nous ?» Parce qu'eux, ils partent en tournée dans les universités aux États-Unis. Et moi, je lui dis « Absolument pas. Je ne veux pas être musicienne comme vous. Moi, je veux être juriste. Parce que je voulais un truc stable, je voulais un truc... tout ce que je n'avais pas eu dans mon enfance, quoi. Et du coup, je vais à Montréal, dans une super université. Je déménage là-bas. Et ma coloc est violoniste de jazz, Manouche. Du coup, on commence à jouer ensemble. Je rencontre d'autres jazzeux, on forme des groupes, nanana. Et là, Montréal, Kitrinada. Soul Action. Là, il y a un espèce de mouvement mondial autour de tout ce qui est la prod. On a plein de blogs, c'est un peu l'époque The Fader, Complex, Pigeons and Planes, Pitchfork, Dazed and Confused, et moi je passe des heures à geeker sur tout ça. J'avais déjà posé sur des prods, enfin des trucs de rappeurs hip-hop en Californie. Là, c'est des producteurs qui demandent à des chanteuses ou qui samplent des chanteuses. Et c'est pas juste chanter un hook sur des morceaux de hip-hop. Ça a pris une autre ampleur. Le champ de possibilités était beaucoup plus large. See you all on my way.
Dans les oreilles de Anna Magidson.
Enfin, moi, j'ai commencé avec des poèmes, puis après, je l'ai transformé un peu en chanson.
Des poèmes en anglais ou en français?
En anglais, parce que là, à ce moment-là, moi, je parlais plus français, en fait. À Montréal, j'étais que avec des Américains. Moi, j'ai fait mon collège et mon lycée en Californie, donc j'ai pas le bac, enfin j'ai complètement, j'ai un niveau de CM2 français, donc je mets tout ça derrière moi. Là je commence vraiment à poser sur des prods, à demander des prods pour m'enregistrer moi-même sur Logic ou GarageBand, et à tomber un peu amoureuse de cette musique produite qui est, où il y a tellement de... Tu peux faire tellement de trucs.
Et donc, cool. T'écoutes qui à ce moment-là? Justement, Kate Renada
Ouais, il y a un producteur qui s'appelle I Am Nobody, il y a Monsieur Carmack. Ah oui, le mouvement, il s'appelait Pew Pew. Ça s'appelait le Pew Pew. Et ouais, du coup, moi, j'écoute vachement de musique électronique, mais qui est quand même plus... qui n'est pas genre de l'électro French Touch, mais électro plus genre cette espèce d'hybride, hip-hop, SoundCloud, wave, quoi, qui est trop excitante, c'est trop cool. Que je monte avec Romain Hainaut, c'est ça qui me permet de rentrer en France. C'est le projet où on voit immédiatement qu'il y a un engouement. Enfin, nous, on comprend rien parce qu'on a 18-19 ans, donc on est genre on se laisse complètement aller par le truc. On signe des contrats un peu à droite à gauche sans vraiment comprendre l'enjeu. Et c'est ça qui me permet de rentrer en France, parce que moi, je voulais rentrer depuis... Enfin, je suis partie à 10 ans et ça faisait 10 ans que je voulais rentrer, en fait. On se fait signer en label, en édition et en tournée. Du coup, avec Romain, on se dit, vas-y, on va quand même aller à Paris parce que tous nos partenaires sont là-bas. J'ai une amie à Montréal qui a un appart à Paris, qui accepte de nous loger. Du coup, tous les trois, on arrive sur Paris en 2016. Yeah.
Et quelle musique t'associes à ce retour à Paris?
Je pense, pour moi, j'étais dans une vague très hip-hop, R&B quand même. C'était un peu la montée de A$AP Rocky, qui était devenue un peu cette icône de la mode et de New York. Puis Montréal étant très proche de New York, on était super influencés par ce qui se passait là-bas. Moi, à cette époque-là, je suis femme de ménage. J'arrive dans les apparts et je me mets Tidra Moses et Brandy. Je pense, en fait, on l'appelle la Bible vocale parce que déjà, elle a une technique et une voix qui est... Elle a vraiment un statut qui est très respecté. Mais je pense aussi que dans sa personnalité, elle a tout le temps été hyper humble. Ça a toujours été très qualitatif, son travail. Et que du coup, naturellement, on lui donne accès à ce statut-là dans la société des chanteurs, dans notre communauté. Parce qu'elle le mérite fois mille. Et tous les choix harmoniques qu'elle a. Moi, celui que je saignais le plus, c'était Broken Hearted, parce qu'il est très dramatique, comme j'aime. Après, tout l'album Aphrodisiac, C'est Diddy, qui est produit par Timbaland, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Whatever you want, I got it, Bobby. Don't hesitate, holla at me. What I'm looking for, a simple you see. Love and support, a sexuality. When I'm with you, I don't wanna be.
Dans les oreilles de
Anna Magidson.
Comment ça s'est passé quand tu as commencé à composer pour des projets solo? Est-ce que tu composais de la même manière? Est-ce que tu écoutais toujours ce genre de musique?
Moi, non, c'était quand même à la même période. Parce qu'en fait, il y avait Haute, qui n'était pas assez différent de comment je composais avec d'autres personnes, finalement. Mais en parallèle avec Haute, je commençais à recevoir un peu des petits emails, des DMs de producteurs différents. Il y a eu des morceaux avec Jabberwocky, que moi, je savais qu'ils étaient de Poitiers, comme moi. Donc, j'étais genre, oh, trop bien. Chambre, j'étais dans un espèce de sous-sol sans fenêtre, horrible. J'avais mon laptop et mon petit micro USB, je faisais mes maquettes, mes démos, et je pense que les moments en composition, ça a toujours pour moi été des moments de solitude avec des élans émotionnels tellement incontrôlables pour moi que je les mets en musique, et c'est ça qui a donné des pré-maquettes qui sont devenues Down par exemple, ou qui est le premier morceau de Haute, mais aussi plein de... En fait, j'avais toujours une banque de prod à disposition où je me disais, je vais poser sur ça. Ou alors, s'il n'y avait pas, je faisais vachement de prod toute seule déjà, donc c'était assez... C'était tellement fun.
Et est-ce que t'as changé de manière de faire ou pas, spécialement?
Bah déjà, il y a eu le switch en français. Ça se fait à Montréal, ma dernière année à Montréal, quand j'écris Natacha.
Qui m'embête, les côtes qui sortent, les arêtes, comme un poisson qu'on achète avec du citron en tête.
Je m'embrouille avec Natacha, qui est ma cousine, et Romain, il m'avait envoyé une prod que j'avais bien kiffé. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais tester en français. Et ça, c'est le premier début de morceau de Natacha, enfin en français, parce que je l'ai fini bien plus tard. Ça a été assez naturel, c'était plus genre un challenge que je me suis mis à moi-même, en mode « why not, let's go ». Et après, j'ai vraiment fait un choix conscient d'écrire le plus possible en français, parce qu'en fait, c'est un peu comme avoir un nouvel instrument entre les mains. C'est un nouvel univers, un nouveau terrain de jeu. Moi, ça faisait 10 ans que j'écrivais en anglais. J'ai bossé avec une centaine de producteurs et de beatmakers. Et je me sentais un peu arrivée au bout de ce cycle-là. Et c'était un peu un poussée d'air fraîche, je sais pas comment dire.
Une bouffée d'air frais.
Une bouffée d'air fraîche. Et que je trouve encore aujourd'hui hyper, hyper challenging.
Et même dans la manière de poser la voix aussi, non? Ça ouvre, on chante pas pareil.
Pas du tout, et ça c'est un gros challenge au début. Parce qu'il y a un truc en français où tu peux pas chanter... À 100%, enfin, il y a un truc un peu déchanté, surtout parce que c'est quand même une langue littéraire, donc c'est le texte qui vient en avant et c'est pas forcément la performance vocale, contrairement à l'anglais dans certains styles. Et du coup, je dois apprendre à déchanter. En plus, ayant beaucoup chanté du R&B et de la comédie musicale, c'est les types de chants les plus performatifs, enfin, où tu es plus dans un truc de regarde, j'ai appris cette technique-là, je chante comme ça.
Oui, là, faut se défaire de toute la technique.
Ouais, voilà. Faut désapprendre.
Le menton qui m'embête, les côtes qui sortent, les arêtes, comme un poisson qu'on achète avec du citron en tête. Moi, je marche à reculons, toi, tu comptes des moutons. Qu'est-ce que le printemps, c'est long? Qu'est-ce que les parents, c'est con? Ouh, Natacha, pourquoi tu réponds pas? Ouh, Natacha, est-ce que t'as honte de moi? Ouh, regarde-moi, mais tu ne comprends pas. Ouh, Natacha. pensiez parfois toi aussi t'aimerais changer de vie.
Ouh, Natacha,
pourquoi tu réponds pas?
Ouh, Natacha,
est-ce que t'as honte de moi?
Les oreilles de
Anna Magidson.
Natacha, titre que vous avez beaucoup entendu sur Radio Nova et dont Anna Magidson, son auteur, nous racontait à la fois la genèse et le fragile équilibre du chant en français. Votre dernier disque, Ménagerie de glace, vient de sortir. Quelle musique vous associez à cet album et quand est-ce que vous avez commencé à le composer?
Je l'ai composé à partir du mois de mai de l'année dernière. Falaise, je l'ai écrit au mois de mai.
Ah oui, donc c'est très rapide en fait.
C'est hyper rapide. Hyper rapide. Parce qu'en plus, j'étais en tournée. Donc, en gros, je dirais qu'il a été fait en 6 mois. Ce qui était assez intéressant parce que j'aime bien prendre mon temps. Natacha, il m'a pris 7 ans. Donc, mais en fait, de bosser avec une deadline, c'était aussi du coup une manière de bosser instinctivement, de se poser moins de questions. Et ce que j'ai écouté beaucoup, j'écoutais beaucoup de musique classique en fait.
Ah oui?
Ouais, mais assez contemporain classique. Du jazz éthiopien, mais très piano. Et un album qui s'appelle, enfin un artiste qui s'appelle The Vernon Spring, qui est un anglais, où c'est du piano aussi. C'était vachement. Je sais pas, en fait, j'ai écouté vachement de musique chill. Et j'étais dans une énorme. Je sais pas, genre l'année dernière, j'ai découvert le yoga comme une espèce de révolution spirituelle. Je suis tombée un peu dans tout ça. Et du coup, j'étais dans des phases hyper, hyper chill où je me levais le matin, je mettais de la musique piano chill et je faisais du yoga. De base, je suis une personne très down tempo, très chill. Donc je pense que ça a que accentué cette partie-là de moi.
Et pour autant, quand même, on entend un morceau qui
ouais,
est...
Hein, ouais, qui n'est pas du tout comme ça.
Non, qui est très two-step, très two-step, voilà.
Ouais, ouais parce qu'en en live, j'aime bien me faire kiffer aussi. Donc, j'avais absolument envie de faire un truc plus up-tempo. Et puis, j'ai vu cette nouvelle vague UK, Pink Panthers, un peu Shy Girl, où il y avait ce two-step qui revenait. Et moi, j'ai toujours trop kiffé ça. Et du coup, je me suis dit, OK, vas-y, on va le faire en français. En fait, j'avais peu de temps, du coup c'est vraiment aussi pas du tout filtré quoi, c'est pas bridé comme projet.
C'est spontané.
Ouais, je trouve ça du coup intéressant parce que c'est rare d'avoir des trucs spontanés parce que c'est quand même plusieurs steps de sortir de la musique et il y a beaucoup de possibilités, enfin de moments où tu te remets en question et en fait tu tâches tout le projet ou des trucs comme ça.
Là tu t'es pas laissé le temps.
Ah bah non.
Oh, 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 oh,
je donnerai pas de nouvelles quand tu m'as pas du poids. Je t'ai donné tout, j'aimerais que tu finisses seul. Entre toi et moi, je t'ai déjà oublié.
Nova,
dans les oreilles de
Anna Magidson.
Et comment tu aimes écouter la musique? Dans quelles conditions?
Tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion récemment. Je me suis dit, mais en fait, faut que j'écoute les infos, faut que j'arrête d'écouter la musique tout le temps. En fait, je suis sur mon téléphone, mais juste genre, même pas dans des écouteurs quand je suis dans la rue, bien sûr, mais sinon, juste genre, comme ça, sur mon tel, quoi. En ce moment, j'écoute une harpiste qui s'appelle Brandy Younger, qui a sorti un album il y a une semaine. Et j'écoute la sœur de Miley Cyrus, qui s'appelle Noah Cyrus, parce que je suis dans une phase genre très American cringe, ou genre un peu des trucs cowboy, un peu des trucs, dans mon délire Americana, de mandoline, de banjo, tout ça. J'écoute j'écoute Sheryl Crow. The first cut is the deepest. Genre des trucs vraiment soft rock pop, quand je suis arrivée aux States, en fait, 2005-2006. Moi, je suis une très grande fan de l'hyperpop. Donc, l'hyperpop, c'est le label PC Music qui a un peu commencé ce nouveau style de musique. On est Sophie, mais aussi plein de. Un peu l'évolution post-SoundCloud, post-2012-2013, piou piou machin. Charlie XCX, Grimes, qui était McGill aussi, là où j'étais à Montréal, et Caroline Polachek, qui est un peu genre l'incarnation de ça ces derniers temps. Mais moi, ce qui m'excite en ce moment, c'est l'hyperpop qui n'est pas forcément électro, mais qui est plus... c'est de la pastiche de la pop. Donc c'est un peu c'est de la pop second degré. C'est très genre méta. Le morceau qui me vient en tête, c'est Do Not Delete de Grimes. Et vraiment, genre, de juste jouer avec des codes différents de la pop... Sur les dernières décennies, en fait. Et moi, c'est ce qui me fait... Comme je disais, j'adore expérimenter et un peu bousculer, nanana. Ce c'est ça en fait pour moi, c'est de quand même rester dans la pop, dans un truc qui est digeste, comme les Beatles ont fait, hein, genre des vraies structures, couplet, refrain, pont, refrain, refrain, mais de vraiment genre juste mettre un petit twist en mode ah, c'est du banjo avec du français par-dessus, ok, avec genre du breakbeat derrière, genre, ok, on joue avec des trucs différents et ça, c'est, je sais pas, c'est un labo quoi, c'est un labo de recherche et c'est toujours comme ça que j'ai vu la musique, enfin la composition. Du coup, voilà, pour moi, c'est cette scène de hyper pop, de les gens qui jouent avec la pop.
Dans les oreilles,
dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de
Anna Magidson.
Et quel est le dernier truc que tu as écouté avant de venir ?
J'ai écouté l'album de Christina Aguilera, Back to Basics, que je pense date de 2004, justement, qui est dans ma phase teenager que je redécouvre pré-pubescent. C'est un des premiers blues que j'ai appris, que je faisais moi-même sur scène, qui s'appelle Trouble, I Got Trouble. Et ouais, ça faisait genre vraiment presque 10 ans que je l'avais pas écouté, donc ça m'a fait rigoler.
Trouble, always knocking at my door. Yes, I'm a whole lot of trouble, baby. Do like a kid in a candy store.
Enfin, dernière question. C'est quoi la musique pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ?
Bah, c'est deux choses. En première partie, c'est une manière de s'exprimer. T'as tout le côté thérapeutique. Vraiment, c'est un langage, c'est une manière de communiquer, mais aussi de notre corps émotionnel, de pouvoir, pas le vider, mais le soulager. Au moins, au lieu de garder les émotions à l'intérieur, de les mettre sur papier ou en musique, que ce soit à travers la parole ou la composition. Et en deuxième partie, c'est le reflet de la société actuelle. C'est comme toute forme d'art, en fait, c'est un commentaire social. Tout ce qu'on entend, qui est créé aujourd'hui, c'est produit de ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est forcément un reflet de la société.
Traduire l'air du temps et catalyser les émotions, deux pistes empruntées par notre invitée, la multi-instrumentiste et chanteuse Anna Magidson, qui partageait avec nous les musiques qui ont traversé sa vie. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui est d'ores et déjà disponible en podcast avec plus de musique et plus d'histoires autour de la musique et disponible sur toutes les plateformes. Quant à moi, vous le savez, je vous retrouve dans quelques minutes. Côté Grand Mix.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles de et sa playlist sur nova.fr.